Monsieur le Président, Madame, Monsieur.
Les procès du siècle.
Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSAM.
My life belonged to that struggle.
Saison 2. Féminisme, genre et minorité.
Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen.
Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits.
Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins.
Les procès du siècle, saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM.
Épisode 9. Avoir 20 ans après MeToo, c'est vraiment mieux. Avec Camille Aumont-Carnel, Irène Théry et Valentine Auberti à la modération.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Amphi Mirabeau de l'Université d'Aix en Provence qui accueille exceptionnellement ce cycle de rencontres. Ce soir, notre procès explore la question suivante. Avoir 20 ans après MeToo, c'est vraiment mieux. Sur le banc des accusés, le patriarcat pour l'ensemble de son œuvre, pourrait-on dire. On pourrait aussi plus largement dire, appeler ça un système de domination sociale. On pourrait parler du colonialisme, du capitalisme. On pourrait parler de plein de choses que la révolution MeToo suscite en termes de réflexion. Les victimes, les femmes d'abord avec cette révolution MeToo et plus largement les minorités sexuelles, identitaires, sociales, physiques, raciales. À la barre, deux grandes témoins que je vous présente en miroir. Elles ont quelques générations d'écart.
Quelques.
L'une a bâti... Je sais pas combien de temps cette génération, je n'arrive jamais à savoir comment le formuler. Mais en tout cas, l'une a bâti son féminisme dans les années 70, un féminisme dit universaliste, dit majoritaire, et la révolution MeToo l'a conduite à dire « moi aussi ». Et se raconter quand l'occupation de sa vie, la sociologie, l'a menée à garder la distance nécessaire par rapport à son objet d'étude. Bonsoir Irène Théry.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, sociologue du droit, de la parenté et du genre. Et de ce double regard, celui d'observatrice et actrice de MeToo, vous tirez un livre, « Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle » publié récemment au Seuil. À la barre, mon autre témoin a à peine 20 ans, quand MeToo éclate et construit son féminisme dans le bouillonnement des années 2010-2020 sur le sujet, bouillonnement qui voit éclore une littérature prolifique, des figures qu'on appelle communément néo-féministes, menant les combats de leur époque. Camille Aumont-Carnel, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes la relève avec les outils de votre époque, car vous êtes influenceuse, militante, autrice. Vous avez surgi dans le débat public en 2018 à travers un compte Instagram qui a tout de suite eu un succès monstre, je m'emballe clito, un compte pour décomplexer les corps et la sexualité et au passage donner deux ou trois tips sur le plaisir féminin. Puis d'autres comptes ont suivi, je dis non chef pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes dans le milieu de la restauration, votre premier métier, et vous avez publié Ado Sexo, un guide d'éducation sexuelle pour ados. Nous verrons si votre différence de génération forge chez vous une approche différente de notre question, si au contraire certains points peuvent être partagés, vos pièces à conviction que nous découvrirons au fil de l'audience aiguilleront le jury citoyen dans la salle. Pour nourrir le débat, on accueillera aussi Amélie Lavin, qui est conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle corps, apparence et sexualité au MUSEM. Elle nous présentera un objet de la collection du musée qui nous permettra de comprendre d'où vient l'antiféminisme et d'où viennent les clichés qui ont la peau dure sur les femmes. D'abord, à toutes deux, une première question. Quand MeToo arrive, comment est-ce que vous l'appréhendez ?
Je l'appréhende sans aucune surprise, puisque 10 ans avant... On a eu l'affaire DSK, et donc que pour moi, en tout cas, il y a d'une façon ou d'une autre, cette question du continent caché des violences sexuelles allait sortir. Donc sans aucune surprise, je dirais, et en même temps avec une surprise immense, c'est de voir tout à coup comment, avec un simple hashtag, des milliers et des milliers et des milliers de récits personnels où des personnes s'engagent en première personne en racontant simplement ce qui leur est arrivé, dont il ou elle n'avait pas souvent pu parler avant, finissent par changer l'image qu'on avait en général de la situation et transformer une question qui était une question intime souvent une question honteuse, en une question sociale et politique. Voilà.
Camille, première pensée, on va tous les niquer. On va pas se mentir. Beaucoup de colère. Et très vite, ce que moi j'ai apprécié, c'est « Ok, on s'organise comment ?» Du coup, il y a ça qui arrive, on stratégise comment ? Est-ce qu'il faut que ça se passe sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut créer des communautés ? Est-ce qu'il faut d'abord passer par les réseaux sociaux pour ensuite se donner rendez-vous ? Il y a eu plusieurs questionnements, mais la première, ça a été « On va tous les niquer, et ensuite, on s'organise comment ?» Irène, vous avez vécu la révolution sexuelle de mai 68.
Oui.
Et vous vivez cette autre révolution sexuelle, c'est pas qu'une révolution sexuelle, MeToo, mais c'en est aussi en partie une. Vous y voyez des correspondances, des différences ?
Je vois des différences, mais ce que je vois surtout, c'est que ce qui se passe avec MeToo est une nouvelle génération. Donc vous avez l'âge d'être ma fille, hein, donc on a vraiment. Voilà, je suis la personne âgée dans cette assemblée, je l'assume tout à fait. Et je vois à la fois une énorme continuité entre ce qui a été entamé sur la question des violences sexuelles dans les années 70, et on est ici à Aix-en-Provence, hein, le lieu du célèbre procès d'Aix de 1978 qui concernait le viol d'un couple de femmes dans les calanques de Marseille, on va en parler tout à l'heure. Il s'est passé beaucoup de choses et qu'on a un peu oublié. Mais donc nous avions entamé, je dirais, ma génération, tout un ensemble de revendications sur le viol avec un mot d'ordre. Quand une femme dit non, c'est non. Mais nous n'avions pas tout fait. Et donc, cette nouvelle génération a approfondi des sujets que nous avions lancés. Elle a surtout déplacé les questions. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Et moi, je considère MeToo comme vraiment une nouvelle étape qualitative, extrêmement importante, de cette nouvelle civilité sexuelle qui s'élabore depuis qu'on vit dans un monde qui veut l'égalité des sexes et des sexualités.
Alors, MeToo, c'est un moment de libération de la parole. En tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup dit. Ce sont des millions de femmes qui parlent, qui mettent au jour un système. Dans cet océan de témoignages, il y a le vôtre, Irène Théry, que vous posez un jour sur votre page Facebook. Moi aussi, deux mots. Et puis, vous racontez brièvement votre agression sexuelle à la radio à la faveur d'une question posée de façon inattendue. Et c'est dans votre livre que vous dépliez l'agression sexuelle que vous avez subie à 8 ans, alors que vous rentriez de votre cours de gym dans la campagne aixoise. Et ce soir, c'est la comédienne Fabienne Julien qui va lire vos mots.
Comment faire comprendre l'agression sexuelle sans traduire la terrible netteté du souvenir ? À commencer pour moi par la douceur de cette fin d'après-midi ensoleillée, la fierté de rentrer toute seule en vélo de ma séance de gym du jeudi. À l'époque, la route de Vauvenargues était si tranquille. La route déserte. Le bruit de la moto qui arrive derrière moi freine, vrombit, freine à nouveau. L'inquiétude qui pointe, puis se transforme en angoisse quand le motard me dépasse, tourne un peu plus loin, revient. La panique qui me saisit quand il traverse vivement la route vers moi et attrape le guidon de mon vélo. J'ai dit qu'il avait prononcé d'une voix sans relief cette phrase unique, bizarre, que je n'ai pas comprise. « Je te viole, petite. » J'entends bien « je te viole », mais je ne connais pas ce mot. Je comprends « je te vole, je vais t'enlever, je vais te tuer ». L'image du fils Peugeot kidnappé à 4 ans et dont on avait parlé cette année-là dans toutes les cours de récréation me suffoque de terreur. Alors je sens subitement la main entre mes jambes. J'ai encore la sensation de mes deux pieds posés sur la route, de part et d'autre de la barre centrale du vélo qui empêche de serrer les cuisses. L'attouchement est brutal, quelques secondes, une éternité. Je n'ai pas pu dire le cri qui est sorti de ma poitrine de cette petite fille fluette, les mots si souvent lus dans Tintin, mais jamais entendus une seule fois en vrai. Au secours, à l'aide. Un cri, des cris venus de je ne sais pas où, des cris à la vie, à la mort, et dont la force le surprend, Il fait demi-tour, court à sa moto, démarre en trombe vers la ville. Va-t-il tourner une fois encore? Il faut fuir, me mettre à l'abri. J'attaque de mon côté la montée haletante vers la maison. Ce qui s'est passé après. À peine les voisins partis, maman va trouver papa dans son bureau. Tous deux me prennent à part sur la terrasse très doucement, très attentivement. Ils s'asseyent sur le banc pour être à ma hauteur. Raconte-nous, Irène. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis tout, sauf la main entre mes jambes. Je leur raconte. Il a dit, je te viole ou je te vole. J'ai crié toutes mes forces, il est parti. Tu as crié, c'est bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et il ne s'est rien passé d'autre? Non, rien d'autre. Tu es sûre? Oui, rien d'autre, rien d'autre. Il s'efforce de me rassurer. Ne t'inquiète pas, il ne reviendra pas, c'est certain, ça ne se reproduira jamais. Le soir, je vérifie dans le dictionnaire. Le verbe « violer », ça existe. J'avais bien entendu quand il me disait ce que sa main essayait de me faire. Jamais, sur la dimension sexuelle de l'agression, je n'ai pu dire quoi que ce soit à mes parents. J'ai toujours su pourquoi je n'ai pas pu dire à mes parents ce qui m'était arrivé. Ce n'est pas parce qu'ils étaient sévères, ils ne l'étaient pas plus que leur époque ne le voulait. Ce n'est pas parce que je n'avais pas confiance en eux, j'avais une confiance totale. Si je n'ai rien pu dire, c'est simplement parce que j'étais une petite fille comme les autres. Les petites filles ordinaires ont honte quand on les agresse. Elles savent bien qu'elles n'ont rien fait, que le méchant c'est l'autre, mais rien n'y fait. Elles protègent leurs parents et leur famille de cette souillure incompréhensible venue de l'inconnu. Elles se protègent aussi. Elle s'imagine que si l'on ne dit rien, ce sera comme s'il n'y avait rien eu. Elle s'enferme toute seule dans le secret. La honte ressentie par la victime est le point commun aux agressions dont on ne parvient pas à parler, on le sait depuis des siècles. Le viol est le seul crime dont l'auteur se sent innocent et la victime honteuse.
Merci pour cette lecture et merci à vous Irène Perry. Merci d'avoir posé ces mots parce que c'est important et nécessaire. Ça a été un des mantras ou une des perspectives de MeToo, la honte doit changer de camp. Est-ce qu'on y arrive et comment on y arrive?
Alors oui, je pense que mon expérience n'est pas des pires. Et je tiens à le souligner. C'est une expérience parmi d'autres, mais elle n'est pas des pires parce que au fond, quand je la raconte aujourd'hui, même si je n'ai pas pu en parler pendant une grande partie de ma vie, je sais qu'a priori, on va me croire. C'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre prononcer les mots de ce récit qui maintenant est public, donc n'appartient plus à mon intimité. Mais quand vous l'écoutez, je sais que vous allez croire ce que j'ai raconté. Pourquoi? Parce que d'abord, j'avais 8 ans, et a priori, on croit quelqu'un qui témoigne de quelque chose qui arrivait enfant. Et puis lui, c'était un inconnu. Il ne va pas arriver pour dire, parole contre parole, elle était consentante. Donc je ne suis pas dans la situation qui est la plus... le cœur de MeToo, c'est-à-dire celle de victimes qui doivent affronter, en plus de ce qui leur est arrivé, une opinion qui n'est pas prête à les entendre et qui vont affronter cette opinion. Donc, et je dis donc, je ne suis pas dans la pire des situations et j'ai écrit ce texte pour me solidariser de celles qui avaient le courage d'affronter justement une opinion qui, en retour de ce qu'elles disaient, et ça a été le cas au début pour les actrices de Hollywood, mais ça a été aussi récemment le cas pour les victimes de Patrick Poivre d'Arvor, par exemple, donc se retrouvent montrées du doigt, soupçonnées d'inventer, dire quand même, elle était bien contente d'avoir sa promotion canapé, puis maintenant elle s'en sert, etc. Donc, je suis solidaire de ces femmes-là, et effectivement, on en reparlera, Je veux témoigner de la, parce que mon cas est simple, que c'est toujours difficile de parler, toujours, mais que quand on l'a fait, quelque chose se passe qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire que on prend en charge son récit, on en reparlera plusieurs fois, et à ce moment-là, on cesse d'adhérer à l'événement. En fait, on ne savait pas, mais la honte était liée au fait qu'on adhérait, comme de l'adhérence, à l'événement que quelqu'un vous avait imposé en vous traitant en fait comme une chose. Quand je parle de souillure, c'est parce qu'on vous a traité comme une chose au service d'une sorte de sexualité ou d'autosexualité qui se moque complètement que vous êtes un être humain. Et donc, on peut sortir de là si on prend en charge son propre récit qui devient, comme le mien, pour ça que je suis contente qu'on le lise ici, un parmi les milliers de récits qui changent, on l'espère, la face des choses. Voilà. Donc il y a un espoir dans MeToo, c'est qu'on peut revenir sur le passé, on peut se le réapproprier si on se réapproprie son histoire. Voilà.
Camille, ça vous inspire quoi ce texte lu et puis ce qu'on vient de dire sur la honte et la réappropriation de son histoire. Je n'avais jamais entendu ce... Bon, déjà je vais me remettre de ma petite chialade. Et ce que ça m'inspire, c'est que moi, à travers mes réseaux sociaux, et notamment mon compte Instagram, je m'en bats plutôt, mais je dis nos chefs aussi, je reçois à peu près 350 messages par jour. Et il y a à peu près une dizaine de témoignages de viol quotidien. Et ce qui m'a marqué, puisque là maintenant ça fait 4 ans, c'est que 90% des victimes qui me contactent ne cherchent pas de solution. Et elles me disent toutes, parce qu'en général c'est des femmes, elles me disent toutes la même chose. La première, c'est « j'ai besoin que tu me dises que tu as déjà entendu ça. Donc j'ai besoin de m'inscrire dans un collectif. J'ai besoin de me dire que c'est pas un cas isolé, mais que je fais partie de cette grande vie, cette grande famille des femmes qui ont été violées. Et la deuxième, c'est j'ai aussi besoin que tu me dises que tu as lu pire. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire quand vous avez dit il y a pire. C'est souvent ce qu'elle me dit. J'ai besoin que tu me dises que tu as lu des atrocités qui sont bien plus grandes que moi, ce que je suis en train de te raconter. Comme s'il y avait un besoin d'échelle, de mesurer le mal qui a été fait et se sentir légitime d'aller mal ou pas. Donc c'est ça mon point. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont les réseaux sociaux qui permettent justement de témoigner là où avant, on avait l'impression qu'il n'y avait que la police. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont là pour écouter parce qu'en fait, on parle souvent de « il faut porter plainte ». Mais c'est un chemin. Et en fait, avant ça, moi, il y a je sais pas, depuis 4 ans, je dois avoir à peu près, je sais pas, 6000 personnes qui m'ont dit, mais t'es la première personne à qui j'en parle. T'es la première personne à qui j'en parle. Et je t'en parle parce que je sais que tu vas me croire. Et en fait, c'est même pas ça l'enjeu. C'est d'avoir un espace où on peut délivrer. Quand vous parlez de cette adhérence, c'est justement ça. C'est un espace où on peut dire ce qui s'est passé. Mais on n'est pas à une époque où les victimes en cherchent des solutions. Ça, c'est pas vrai, par contre. On est à une époque où les victimes cherchent à avoir une parole, un espace dans lequel elles se sentent safe. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant.
Donc, la justice n'est pas la seule solution.
Oui, la justice n'est pas la seule solution, absolument.
Pour moi, MeToo, c'est aussi la révolution du consentement qui est le miroir inversé de la violence sexuelle, de fait, parce qu'elle, finalement, elle, c'est la clé de plein de choses. Elle est déjà au cœur d'un procès dont que vous avez rapidement évoqué, qui est le procès d'Aix-en-Provence en 1978, où Gisèle Halimi est l'avocate de deux femmes violées, deux femmes qui avaient dit non, clairement. Et dans sa plaidoirie, Gisèle Halimi aborde cette question précisément du consentement. Ce soir, c'est le comédien et metteur en scène Grégoire Ingold qui plaide les mots de la célèbre avocate féministe. C'est à vous.
À peu près 99 fois sur 100, quand une femme est violée, il n'y a pas de témoin. Et par conséquent, 99 fois sur 100, les violeurs expliquent tout ce qui a pu se passer auparavant et ils concluent « Oui, mais à ce moment-là, elles ont été consentantes. » Le drame de cet argument, c'est que, qu'on le veuille ou non, nous, les plaignantes, nous sommes acculés à devenir accusés et à essayer de vous démontrer que, ben non, non, nous n'avons pas consenti. Mais alors, si vous n'avez pas consenti, expliquez-vous là-dessus. sur ce geste, sur ce regard, sur cette attente, sur ce délai que vous avez mis pour déposer plainte. Bref, le procès n'est plus le même. Les plaignantes deviennent des accusées et doivent prouver qu'elles n'ont pas consenti. Je pense, je suis même certaine, que la Cour a très bien compris que le débat dans ce dossier est celui-là et qu'il tourne autour du mot « consentement ». Y a-t-il eu ou non consentement de la part d'Anne et d'Arcélie dans cette abominable nuit du 21 au 22 août? Il y a donc une chose abominable, l'expédition punitive, mais beaucoup plus abominable s'agissant du droit pour une femme de dire non. Et quand une femme dit non, il faut qu'on le comprenne enfin, une fois pour toutes, c'est non. Ce n'est pas oui. Ces femmes ont dit non. Une expédition punitive est décidée. Alors dans le dossier, il y a le coup de marteau désespéré donné par Anne à Roger. Et puis, un déchaînement de violence des trois hommes sur ces deux femmes, lèvres fendues, saignements, ecchymose, coup de poing tellement violent qu'Anne souffre d'une hypoacousie de l'oreille gauche. Alors je pose la question à la Cour. Comment une femme qui ne veut pas être violée doit-elle le dire à son violeur? Et à un certain moment, ces jeunes femmes qui ont réellement peur d'être assassinées, qui sont anéanties, harassées, battues, humiliées, cessent de se débattre. Elles cèdent. Et c'est cela qu'on appelle le consentement. Elles cèdent. Et vaincues, inertes, elles subissent. Et c'est cela qu'on appelle le consentement.
Donc en fait, il faut toujours prouver que on n'a pas consenti. Est-ce que la solution, c'est que le consentement doit passer par un oui?
Pour moi, la solution, c'est l'éducation. Pour moi, la solution, c'est le fait que petit à petit, on comprenne que le dialogue doit être au centre. Il n'y a pas de moment où on est allé trop loin. Ça, je l'entends encore beaucoup. Oui, mais j'avais envie. Oui, mais en fait, t'avais envie à ce moment-là et après, t'avais plus envie et c'est OK. Et je pense que faut aussi être un peu ferme dans... Comment dire? On peut pas... En fait, on peut pas s'arrêter à un oui, c'est oui et non, c'est non. Je pense qu'en fait, il y a tout un tas de domaines qu'il faut qu'on arrive à éclaircir, à parler. Et la communication, elle est vraiment clé, en fait. Le fait de se dire, même en amont ou même après, je sais que c'est aussi très, très important de faire des... Moi, je sais que j'adore faire ça, par exemple. Dans mes rapports sexuels, après, je fais un espèce de retour sur expérience. Parce que je sais que... Non, mais pendant, il y a tout un tas de... Ouais, un espèce de débrief, quand il n'y a plus d'enjeux, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais il y a des enjeux dans les rapports sexuels. Et en fait, le fait d'après, de se dire mutuellement, ok, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu t'es senti à l'aise tout du long? Est-ce qu'il y a un moment donné où t'étais peut-être moins à l'aise et t'as pas osé? Je trouve que c'est très, très important. Et ça pose aussi les bases pour potentiellement le prochain rapport. Et pour que l'autre soit notifié de ça. De dire, bah tu vois, quand j'ai fait ça, bah, en fait, j'étais pas à l'aise. Ou là, en fait, j'ai eu mal, mais je me suis dit que ça allait passer après. Donc, peut-être avoir une espèce de grille de lecture un peu pour l'autre.
Et moi, mon point, c'est aussi, j'entends complètement qu'aujourd'hui, le consentement, on y accède par le biais de la sexualité. Et encore aujourd'hui, par le biais des violences sexuelles. Donc, même pas encore. On tend vers le plaisir, le consentement qui est sexy, le ça va de soi.
L'expression joyeuse du consentement.
L'expression joyeuse du consentement. Mais mon point, c'est aussi de se dire que le consentement, finalement, il est partout. Et j'espère qu'on arrive à une période où, justement, moi, j'ai entendu parler du consentement, je crois, la première fois, j'avais 15 ans. C'est atroce.
alors qu'on devrait en entendre parler à 2 ans, enfin, quand on commence à apprendre à parler, tout simplement. Parce qu'il est dans la façon dont on mange, parce qu'il est quand on demande à notre pote si il veut ou pas qu'on lui serve un verre de vin, parce qu'il est, en fait, il est partout, le consentement. Donc aujourd'hui, on l'aborde d'un point de vue traumatique, on tend vers un point de vue qui est beaucoup plus jouissif, mais l'idée, à un moment donné, c'est aussi de défocus du sujet intrinsèquement sexuel pour juste comprendre qu'en fait, le consentement, c'est la base du relationnel avec l'autre, en fait.
On peut en faire quelque chose du dialogue sensuel, érotique entre deux personnes.
Ah oui, bah oui. C'est sexy le consentement. Avec une petite voix mielleuse dans l'oreille, là, on adore.
Irène Théry, oui. Comment est-ce qu'on bâtit une nouvelle civilité sexuelle? C'est l'objet de
votre livre.
Je pense que vous avez parlé de tellement de choses, Camille, avant d'arriver à qu'est-ce qu'on peut faire de maintenant? Je pense qu'il faut avoir quand même la conscience de d'où on vient, si on veut comprendre justement ces questions du consentement, y compris ce que vous avez décrit sur la question vouloir, ne pas vouloir, etc. Donc moi, j'ai consacré une grande partie de mon livre, en fait, à replacer les débats actuels dans la longue histoire pour donner la mesure de la dissymétrie, enfin, la dimension du genre dans ces questions. Apparemment, on pourrait dire, par rapport à des questions comme le viol, les violences, ben, qu'on soit homme ou femme, on est tous dans la même... dans la même société, avec les mêmes interdits, etc. Ben, ce qu'on voit, c'est qu'on est héritier vraiment, depuis très longtemps, d'une conception qui oppose complètement la sexualité masculine et la sexualité féminine. En fait, une dissymétrie qui a toujours été une dissymétrie sociale, une dissymétrie dans les normes. C'était qu'il y avait une règle pour tous, je dis en deux mots, du point de vue général de l'organisation de la sexualité. Moi je reviens très loin jusqu'au 16e, mais on peut rester simplement sur le code Napoléon, parce qu'on est en fac de droit, du code Napoléon aux années 70, en gros. Hein. Ben, la règle sociale, c'est que ce qui compte, c'est d'abord de savoir si les gens sont mariés ou pas mariés. La sexualité que la société considère comme une sexualité légitime, valorisée, encouragée, c'est la sexualité dans le mariage. Et la sexualité... Il y a, à côté de cette sexualité valorisée, encouragée, une sexualité qui est considérée comme vicieuse, quelquefois pathologique, c'est la sexualité hors du mariage. Mais ce qui est important, c'est de voir que par rapport à cette norme, les hommes et les femmes n'ont jamais été dans des situations comparables le moins du monde. Les filles doivent arriver vierges au mariage, on n'a jamais demandé aux garçons d'arriver vierges au mariage. Alors comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour arriver non vierge au mariage où les filles doivent arriver vierges dans une... Eh bien, c'est pas compliqué. C'est parce qu'il y a un principe, c'est un principe de division des femmes en deux groupes qui n'a aucun équivalent chez les hommes. Les filles honnêtes qui vont devenir de dignes épouses et mères de famille, et les filles perdues qui vont devenir des filles publiques et avec lesquelles, justement, il sera possible d'avoir cette sexualité non matrimoniale, mais qu'on admet pour les hommes parce que leur sexualité ne peut pas se borner aux satisfactions légitimes du mariage qu'on peut se permettre avec une épouse. Et c'est quelque chose qui était tellement installé dans la société que, je prends un exemple, dans notre grand écrivain national, celui dont on célèbre le centenaire de la naissance et qui est par ailleurs mon idole personnelle, Marcel Proust, à 16 ans, envoie une lettre à son grand-père pour lui demander 13 francs pour aller au bordel, et à son grand-père. Et il lui explique qu'il faut quand même qu'il a des mauvaises habitudes, sous-entendu masturbation, dont il faut absolument se défaire, et donc qu'il lui demande 13 francs pour aller, je cite Proust, se vider. Voilà comment cet homme parle de ce qu'il va faire. Donc il y a les filles avec lesquelles on va se vider, et tout le monde trouve ça très... très, très sain pour un garçon. Et puis, il y a les jeunes femmes qui, si elles ont une relation sexuelle hors du mariage, vont être montrées du doigt comme étant justement des filles perdues, des filles de mauvaise vie, des vicieuses, etc. Aucun équivalent pour les hommes. Eux, c'est des séducteurs, ils sont virils, etc. Et donc, cette opposition, si vous voulez, entre une sexualité masculine de conquête qui va avec l'idée de la conscience de la virilité et une sexualité féminine de citadelle, qui doit être très rare, très précieuse. Quand une femme dit non, cela veut dire peut-être. Quand elle dit peut-être, cela veut dire oui. Et quand elle dit oui, ça n'est pas une femme du monde. Donc, quand on prend la mesure de ce poids de l'histoire, de cette asymétrie des sexualités, du fait qu'il y a une surresponsabilisation des femmes. C'est à elles de se protéger, justement d'abord dans leur vertu. Les garçons, eux, ils considèrent qu'il y a un champ libre, on va dire, tout ce qui est attrapable pourra s'attraper. Donc, il y a vraiment un poids très, très lourd d'une histoire très longue, très pesante, qui n'a jamais été vraiment tout à fait interrogée. Et où, quand, par exemple, au début de MeToo, on a une tribune pour défendre la liberté d'importuner, on se dit, mais est-ce qu'elles ont conscience, ces femmes qui écrivent ça, 100 femmes, pour la liberté d'importuner, que c'est tout à fait normal que les hommes importunent les femmes? Or, justement, ce dont vous parlez, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'à l'heure de l'égalité des sexes, de l'émancipation, du respect d'autrui, on ne peut plus admettre de vivre dans ce principe de dissymétrie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une sorte de catéchisme des mœurs contemporaines. Mais effectivement, il faut trouver une autre façon d'aborder la question de la séduction que ce partage des rôles dans lesquels ils considèrent que, a priori, tout ce qui est bon à prendre sera pris, que de toute façon c'est à elles, c'est elles qui courront des risques s'il y a eu trop d'histoires, etc. Donc là vraiment ça me paraît important d'avoir conscience de ça, parce que ça pèse encore aujourd'hui.
On va continuer sur l'histoire avec Amélie Lavin qui va me rejoindre, et pendant qu'elle me rejoint, Camille, va réagir parce qu'elle a pris plein de notes.
Non, mais moi c'est la linguistique qui m'intéresse beaucoup, et c'est marrant comment, en fait, on a, d'un point de vue de la sexualité masculine, dans tout ce que vous avez décrit, il y a vraiment le champ lexical de la quête et de l'honneur. Et d'un point de vue féminin, on a vraiment le champ lexical de l'objet et de l'argent. Et c'est marrant comment, d'un seul coup, notre vagin devient un trou dans lequel on se vide. Mais d'ailleurs, ce terme reste toujours, hein, le mot trou, on l'entend encore beaucoup. Alors que c'est chargé de sens en plus, c'est un trou, on ne sait pas où est-ce que ça se finit, c'est sombre. Enfin, en fait, ça raconte aussi quelque chose d'horrible qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est du coup très intéressant, ouais, tout ce champ lexical-là.
Et alors, on va rester dans l'histoire, très très loin de MeToo, l'immense bond jusqu'au 19e siècle, pour comprendre encore un peu plus comment la femme castratrice, la femme hystérique ont permis de forger un antiféminisme tenace. Amélie Lavin, cet antiféminisme, vous nous le présentez à travers un saladier qu'on a envie de balancer par la fenêtre quand vous saurez, qu'on a envie de péter en mille morceaux quand vous saurez ce qu'il raconte.
Oui. Allez-y, bonsoir.
Donc c'était impossible d'apporter là physiquement un objet de la collection du MUCEM, donc on va plutôt regarder des images. J'avais envie, pour commencer, de partir de ce saladier en faïence du XVIIIe siècle. Donc c'est un objet qui, en fait, il y a un nom, on voit, c'est marqué René Le Gros. Et ce nom, c'est le nom de la personne qui a commandé l'objet. Et là, ce monsieur René Le Gros, sans doute s'agit-il en fait d'un présent qu'il fait faire pour son mariage, on peut imaginer. Il fait représenter une iconographie qui est très à la mode au XVIIIe et encore plus au XIXe siècle, qui est celle donc de l'arbre d'amour. Donc ce que vous voyez devant vous, donc un arbre dans lequel sont perchés des hommes, et en dessous de ces hommes, perchés comme des pommes dans un arbre, des femmes qui, alors, une en a déjà attrapé un par le bras, peut-être qu'elle a réussi à le faire tomber. Vous en voyez deux qui ont ce qu'on appelle des gaules, en fait, donc c'est des bâtons, quoi. Hein, donc elles essayent de taper sur les branches pour faire tomber un homme, ou bien même carrément, alors il y en a une qui monte sur une échelle, voilà, elle essaye de le faire descendre. Et puis, finalement, méthode la plus radicale, s'il ne tombe pas ou si on n'arrive pas à les faire descendre, par la promesse, par la négociation ou en les faisant tomber, elle se décide carrément à scier l'arbre et on envoie une troisième qui, avec une corde, va pouvoir abattre l'ouvrage. Donc, vous comprenez que si elles utilisent ces méthodes jusqu'à une forme de radicalité, c'est bien pour dégoter un mari. Et alors, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, est-ce que là, on avait une forme de harcèlement à l'envers? Est-ce que c'est ça dont il s'agit?
Est-ce que c'est subversif?
Voilà, est-ce qu'on aurait une image qui viendrait subvertir les rapports hommes-femmes qui sont largement satirisés par ce type de représentation?
Alors, donc, et la réponse,
la réponse, on peut tout de suite vous dire que c'est non, malheureusement. Voilà. Désolée d'aller si abruptement à la conclusion, mais peut-être on peut faire quand même un petit détour par un retour encore plus loin en arrière. D'abord, pour vous dire que cette iconographie, elle est plus ancienne, en fait. Elle existe dès le 15e siècle, à peu près. Mais à cette époque-là, ce sont les femmes qui sont dans les arbres et les hommes qui essaient de les faire tomber de la même manière au-dessous. À ce moment-là, l'iconographie ne s'appelle pas l'arbre d'amour, mais l'arbre aux beaux fruits. Les fruits étant, bien sûr, les femmes. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un retour encore plus loin en arrière avec cette image. Ah, je vois que les gens ont compris de quoi il s'agissait. C'est une fresque du XIIIe siècle qui se trouve en fait dans une fontaine en Toscane. Et en fait, ça m'intéresse de faire une filiation entre cet arbre d'amour qu'on peut relier à bon nombre d'autres arbres, arbres de vie, arbres de fertilité, donc c'est des iconographies très prolixes. Et cet arbre-là, vous avez vu ce qui pousse dans les arbres, donc ce ne sont ni des hommes ni des femmes, mais ce sont des sexes masculins, complètement en érection. Hein. Alors, en fait, au Moyen-Âge, c'est une iconographie très peu rare, même plutôt abondante. Alors, elle est liée, bien sûr, vous l'avez compris, donc Fontaine de l'Abondance, à la question de la fertilité. Ces pénis ont une fonction, on pourrait dire, à la fois apotropaïque, c'est-à-dire, ils servent à repousser le mauvais œil, mais aussi à souhaiter, à amener la fertilité attendue. Mais au-delà de cette question, enfin de cette idée plutôt positive, vous voyez peut-être un détail. On voit deux femmes en fait qui se crêpent le chignon, elles se tirent vraiment dans les cheveux pour se disputer sans doute dans la petite sacoche le grand nombre de pénis qu'elles ont réussi à collecter. Et donc en fait, ce que nous dit cette petite image dans l'image, c'est que ces représentations-là, elles ont aussi une dimension morale, moralisatrice. Elles viennent rappeler aux médiévaux que les femmes sont souvent des êtres faibles, faibles au désir, obsédées par la sexualité, facilement soumises aux tentations du diable. Donc on n'est pas loin des accusations systémiques de sorcellerie qui vont se multiplier plutôt au XVIe, XVIIe siècle et qui vont amener cette adéquation femme égale sorcière. Et donc vous voyez que de cette représentation positive de l'arbre fertile, on en arrive quand même, encore une fois, encore et toujours, à une représentation plutôt discriminante de la figure féminine. Et il me semble que ces représentations des femmes concourent à construire deux figures que le 19e va largement, dont il va user et abuser. D'un côté, on a la figure de la virago, c'est-à-dire la femme virile, la femme qui en fait trop, et donc celle qui va devenir féministe et qui réclamera des droits qui ne lui sont pas dus. Et de l'autre côté, celle qui est son pendant, en quelque sorte, c'est la femme hystérique, celle qui est guidée par son utérus, par sa sexualité débridée, et qui est une sexualité dangereuse. Voilà, donc cette petite boucle pour montrer que, évidemment, ça s'inscrit dans un temps long, et que forcément on revient un peu de loin, et que donc il faudra, et il faut encore du temps pour déconstruire cette structure profonde qui véhicule des a priori qui sont profondément ancrés dans la société du 19e et encore d'une certaine manière dans la nôtre.
Et qui ont perduré encore aujourd'hui. Merci, hyper intéressant.
Ça existe toujours les arbres comme ça avec des tubes. Enfin, c'est peut-être on peut y revenir, quoi. Enfin,
dans des fontaines, en tout cas.
Dans des
fontaines,
ouais, voilà. Paris, hôtel de ville. On peut peut-être penser à un projet avec des godes et des sextoys comme ça.
Alors, je trouve qu'on a beaucoup parlé phallus ce soir, et pas assez.
Oui, je suis d'accord.
D'autres choses. Suspense. Et pas assez de clitoris. C'est votre pièce à conviction, Camille au Mont-Carnel.
C'est pas trop mignon.
Donc, précision, c'est un clitoris grandeur nature
en entier, repos, mais au repos. Si voilà, pas dire. En érection.
Il est à taille réelle. Hein.
Il est à taille réelle, mais au repos. Parce qu'après, on bande aussi. Vrai sujet, moi je sais que ça m'a fait tellement du bien le jour où on m'a donné la définition d'un clitoris et qu'ensuite on m'a donné juste derrière la définition d'un pénis. Et je me suis dit, ah, ok. Moi aussi, entre les jambes, j'ai un truc de ouf qui peut scorcher des sangs et qui peut être gros. Super.
Et ça m'a fait du bien. Donc, clitoris, organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 10 et 13 cm. Et un pénis, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 11 et 16 cm. Donc en gros, il y a des clitoris qui sont plus gros que des pénis. On attendait quoi pour nous le dire? Le déluge, Troisième Guerre mondiale, qui est plus d'eau sur la planète, enfin je parle. Et donc, je fais partie de ces personnes, mais comme je pense beaucoup d'entre vous, où en fait, dans nos cours d'éducation sexuelle, si on peut les appeler ainsi, on a toujours comparé vulve et pénis. Et je pense que c'est une grande erreur, parce que c'est comme si en plus de les comparer, on les associe en mode ça doit fonctionner ensemble. Alors que comparer le clitoris et le pénis et leur ramener à leur anatomie, à leur fonctionnement, je trouve qu'il y a quelque chose de très empouvoirant. Et donc on sort de tout ce discours de petit bourgeon, petite fleur, truc chiant. Voilà.
Donc pourquoi il est central, le clitoris?
Alors le clitoris, j'aimerais
savoir. Dans cette révolution qu'a mise.
Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est le véritable symbole, parce que finalement, parler de clitoris, c'est déjà être obligé de le montrer. Et c'est vrai que bah, en fait, on a été plusieurs à peut-être d'abord savoir s'en servir, mais pas vraiment savoir à quoi ça ressemblait. On a été aussi beaucoup trompés par l'étymologie du mot, qui en grec veut dire petite colline. Donc en fait, l'étymologie même du mot nous faisait comprendre qu'il n'y avait que ça, alors qu'en fait pas du tout. Et finalement, ça revient à parler de plaisir, ça revient à parler de masturbation, ça revient à parler de sexualité, mais surtout, ça revient à parler de sexe non pénétratif, donc ça aussi c'est très intéressant, ça revient à parler d'excision, ça revient à parler de tout un tas de sujets qui sont au centre de la révolution qu'on vit là, qui est la révolution du plaisir et la révolution du désir. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis se dire que voilà, il y a une partie à l'extérieur, mais qu'en fait la plus grande partie est à l'intérieur. Et sortir justement de ce truc de on est des petites choses. Moi je sais que j'ai beaucoup grandi avec ce champ lexical des petites choses, de la mignonneté, du bonbon, du berlingot, petit abricot. Voilà. Alors que j'ai aussi un organe érectile qui peut se gorger de sang entre les jambes, et donc ça fait du bien, finalement. Donc quand même quelque chose d'un peu plus positif. Et puis il y avait aussi, et on a beaucoup appelé ça la règle de 3, parce que quand on voit tous les comptes Instagram qui se sont créés, il y a souvent le mot clito qui revient, donc soit je m'appelle clito, gang du clito, clit revolution. Et il y avait ce truc, en fait le clito, soit tu sais pas à quoi ça sert, soit tu sais pas t'en servir, soit tu sais pas à quoi ça ressemble. C'est un peu la règle de 3. Et là je pense qu'on est en train de complètement éradiquer ça et en être fier, quoi, tout simplement.
Merci. Irène a une réaction ou un commentaire sur le clitoris?
Non, je n'ai pas de réaction particulière sur le clitoris. J'ai été fascinée en écoutant. Donc,
oui,
non, je me souviens simplement, puisque je peux faire au moins un témoignage. D'abord, il faut dire que c'est une chercheuse qui a donc permis que cette représentation existe. On va la citer, Odile Fillot, parce qu'elle elle a vraiment joué un rôle très important en permettant cette vision, et on espère que ça changera les manuels de MST. De MST.
SVT.
De SVT. MST.
Dans lesquels on parle sans doute de MST.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as quoi installé au programme de MST, toi? J'adore.
Au programme de MST.
C'est peut-être plus utile qu'un cours d'éducation à la société sans clitoris ici.
C'est la matière sexe et des tubes. Et MST. Nouvelle matière.
En tout cas, il y a une chose dont je peux témoigner, c'est vrai, c'est que dans les années 70, on disait encore justement, on opposait encore un peu comme l'avait fait Freud, les clitoridiennes et les vaginales. Et les clitoridiennes étaient censées être en développement incomplet.
Oui, c'est l'orgasme de la petite fille versus l'orgasme de la femme accomplie.
Donc il y a ça aussi, à mon avis, d'important dans cette révolution, c'est de sortir de cette hiérarchie entre une sexualité soumise en fait à la, enfin, orientée vers la pénétration comme plaisir masculin, qui était censée être l'accomplissement de la femme. Quoi.
Et puis ramener aussi le clitoris, 8000 terminaisons nerveuses, clitoris, juste pour info, le gland d'un pénis en a 3000.
Super. Non mais c'est vrai, j'ai rien à dire de plus.
Voilà, ça fait ça.
Je crois qu'on en a fini avec ce procès. Merci à Camille Aumont-Carnel et Irène Théry. Merci à Luc Gavin. Merci à Chien et Grégoire Ingold. Merci, bonne soirée.
Cette séance a été enregistrée le 30 janvier 2023 avec la participation de Camille Aumont-Carnel, Irène Théry, Amélie Lavin et de Valentine Auberti à la modération.
C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUCEM en collaboration avec Grégoire Ingold.
À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta,
Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Thuayon.
En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle.
Réalisation, Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUCEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction.
Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.